Vous écoutez RTL.
Il est 15h03, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre. Et puis, oh, ça chauffe, j'ai l'impression, en studio aujourd'hui avec Flavie Flamand.
Bah merci, Flavie. Marie Guerrier. Vous n'avez pas des informations plus joyeuses à nous livrer sur l'antenne d'RTL, vous ?
Je vais faire un effort.
Oui, allez, je vous redonne l'antenne à 16h, hein, si je veux. Hein,
allez, d'accord, à tout à l'heure.
Ouais, très bien. Et puis, alors, nous, on se retrouve dans un instant pour parler de la colère sur RTL. Alors, soyez là.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fait du bien de piquer une petite gueulante de temps en temps. Et puis ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est pas forcément dans ma nature. Donc j'ai essayé en tout cas de bien le faire. Soyez les bienvenus sur RTL et dans En effet pour s'entendre où chaque jour, avec vous, vous le savez, nous cultivons la bonne humeur, la curiosité, le goût de l'autre et où l'on décortique aussi nos comportements pour mieux nous connaître et par conséquent pour mieux vivre ensemble et avec nous-mêmes. Avant de nous présenter nos invités, je voudrais remercier tous ceux qui nous rejoignent depuis cette rentrée pour leur message d'enthousiasme au sujet de notre émission. Sachez que nous sommes donc ouverts tous les jours sur l'antenne d'RTL en direct entre 15h et 16h et que nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez échanger si vous le voulez pour prolonger le plaisir au-delà de l'antenne. Non, vous l'avez compris, je ne suis pas de mauvais poil aujourd'hui, je suis en colère. Au quatrième rang des péchés capitaux, la colère est une émotion que l'on vit à tous les âges et à des degrés différents. De l'insatisfaction à la fureur, elle colonise d'une façon implacable notre esprit et notre corps. Selon notre faculté d'ailleurs à la gérer ou non, elle peut nous libérer de ce qui nous entrave comme nous en rendre littéralement prisonniers. Alors, est-il sain de faire s'exprimer notre colère ? Si oui, par quels moyens ? Quels sont les méfaits sur le long terme d'une terrible colère contenue ? Que traduit la colère des enfants et des adolescents ? On en parle aujourd'hui avec nos invités qui ont plutôt l'air d'être dans de bonnes dispositions. Laurence Lemoine, bonjour. Bienvenue
ouais,
sur
faut
RTL.
Voir.
Faut voir, faut voir. Laurence, vous êtes psychologue, rédactrice en chef adjointe du magazine Psychologie. Et d'ailleurs, ceux qui nous écoutent sont en train de se dire, mais c'est pas possible, Laurence Lemoine a été déjà là lundi, mais c'est incroyable, parce que c'est un sujet qui vous touche et qui vous plaît, la colère.
Oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... On maltraite la colère, alors que la colère, c'est une saine énergie.
Ah bon ?
Oui. Le problème, c'est pas la colère, c'est la violence. La colère, c'est un signal d'alarme, c'est une énergie qui permet de se défendre. Mais on culpabilise les gens pour leur colère, et c'est là que viennent tous nos problèmes relationnels.
On les culpabilise peut-être aussi quand ils sont enfants. Et ça, c'est Daniel Marcelli qui va nous en parler. Bonjour Daniel.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Daniel, vous êtes professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et puis vous êtes auteur de cet ouvrage « Avoir la rage du besoin de créer à l'envie de détruire » que l'on retrouve chez Albin Michel. Un ouvrage qui est extrêmement intéressant sur le sujet de la colère et notamment la colère de nos enfants. Et effectivement, vous avez raison, comme le dit Laurence Lemoine, Daniel Marcelli, la colère, c'est pas bien.
C'est en général perçu comme un élément négatif par les parents. Quand le petit enfant se commence à bouder, à crier, évidemment, a fortiori, s'il se roule par terre, et il y a un sentiment d'impuissance des parents. Et la colère, c'est typique des enfants entre 18 mois et 2 ans, dans ce qu'on appelle la période d'opposition, jusqu'à 4 ans et demi, 5 ans. Et je dirais que, compte tenu des conditions d'éducation actuelles, c'est cette phase d'opposition et ces colères sont de plus en plus importantes, de plus en plus envahissantes et parfois de plus en plus durables, y compris dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à 5 ans, 5 ans et demi.
Quelles sont les émotions qui font le lit de la colère des enfants ?
Ah, c'est d'abord la contrariété, quand l'enfant veut quelque chose qu'il ne peut pas l'obtenir, ou parfois même qu'il veut faire quelque chose et qu'il n'y arrive pas. L'enfant est aujourd'hui fondamentalement exhorté à faire les choses. Je dis souvent qu'on est passé d'une éducation où les deux principes c'était l'interdit et la menace, je t'interdis de faire ça et si tu le fais, tu vas voir ce qui va se passer, à une éducation où c'est l'exhortation. Allez, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, à ce que j'appellerais la séduction, comme on a déjà parlé, mon chéri, etc. Et donc, quand l'enfant est exhorté dans un climat de séduction, s'il bute sur quelque chose, soit qu'il lui est interdit, soit qu'il ne peut pas faire, eh bien, effectivement, il peut être très en colère, voire avoir une véritable crise de rage, qui est, je dirais, le paroxysme de la colère. La colère, on est en général, il y a un objet, on est en colère contre quelque chose, ou éventuellement contre quelqu'un. Et la rage, c'est quand on n'arrive pas à l'exprimer, qu'elle risque de se retourner sur soi avec cette dimension de fureur, précisément, quand les petits-enfants commencent à se rouler par terre, parfois même à se faire du mal. Et là, ils peuvent avoir des véritables crises de rage.
Laurence Lemoine, nous, on ne se roule plus par terre. On a passé l'âge hein, de piquer une crise et de se rouler par terre. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel Marcelli qui me regarde, il n'a pas l'air d'être convaincu.
C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure.
Néanmoins, on est en règle générale aujourd'hui dans une nation en colère. Et on y reviendra à travers les messages que l'on reçoit. Merci à tous d'ailleurs pour votre réactivité sur les réseaux sociaux. Une nation en colère parce que c'est une nation qui est malmenée aujourd'hui à travers notamment le terrorisme. Et c'est une colère qui confine à l'impuissance parce qu'on est impuissant, on ne sait pas quoi faire. Ce qui rejoint effectivement l'impuissance d'un petit garçon ou d'une petite fille qui n'arrive pas à faire quelque chose. Et puis, quand on est adulte aussi, il y a des colères tout à coup dont on ne sait que faire. On n'en connaît pas forcément l'objet.
Oui, le problème c'est qu'on n'a pas appris à en faire quelque chose. Encore une fois, je disais, le problème c'est pas la colère, c'est ce qu'on a appris ou pas appris à en faire. Et il faut pouvoir exprimer ce qui ne nous convient pas. Alors, sur le plan collectif, on a des bonnes raisons d'être en colère, effectivement un sentiment d'impuissance, mais cette colère, elle est quand même précieuse, c'est qu'elle est quand même à la base de l'indignation, de la capacité de révolte, de la mobilisation, de la révolution. Il y a aussi la colère des casseurs qui est différente, où en effet il y a de l'impuissance et juste l'envie de détruire parce qu'on ne sait pas faire autrement. Mais on rencontre toujours la colère quand on est adulte dans ses relations privées ou dans ses relations professionnelles, quand on se sent piétiné, quand on se sent incompris, quand on a l'impression que nos droits ne sont pas respectés. Et c'est un signal d'alarme, encore une fois, important à écouter. Il faut se réconcilier avec ses colères, mais apprendre à les transformer, comme disait Daniel tout à l'heure.
Voilà, et les transformer, on va peut-être vous y aider justement. En direct sur RTL jusqu'à 16h. N'hésitez pas, vous nous laissez vos messages. Vous pouvez d'ailleurs, à l'instar de Marie-Laure qu'on essaye de joindre, nous composer le 3210 ou nous joindre pour pouvoir témoigner sur cette antenne. Allez, on se calme tout de suite avec Frérot de la Vega.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Nous allons dans un instant essayer d'avoir Laura sur cette antenne. Laura, si vous nous écoutez, nous sommes en train d'essayer de vous joindre. Aujourd'hui, on parle de la colère. La colère que Val définit comme une simple démonstration de notre impuissance à nous maîtriser. Rester en colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est vous qui vous brûlez. La colère fait plus de mal à celui qui l'a déversée qu'à celui qui la reçoit. Enfin, pour ma part, elle est très négative. Est-ce qu'on est véritablement égaux face au sentiment de la colère, Daniel Marcelli ?
Non, puisque certains sont en tranquillité, en quiétude avec leurs émotions coléreuses. D'autres, au contraire, les perçoivent immédiatement comme quelque chose de dangereux, de négatif. Et là, effectivement, le chemin diverge. Il y a ceux qui acceptent leur colère, qui sont capables d'en comprendre les raisons, d'en ressentir les motifs, et à partir de là, de l'exprimer de manière plus ou moins plus adaptée, disons. Et puis, il y a ceux qui, dès qu'ils sont en colère, comme une sorte de bouton on-off, oui. En tout ou rien, et dès que la colère se déclenche, ils n'ont plus aucune capacité de contrôle. Et là, effectivement, ça peut être l'explosion, et bien entendu, en général, ils s'en veulent après.
D'ailleurs, c'est intéressant, Laurence Lemoine, quand on est en colère, on exprime des émotions en disant « j'étais hors de moi, je suis sortie de mes gonds », comme si tout à coup, on n'était plus dans le contrôle, on était vraiment dans quelque chose qui nous dépasse.
Oui, ça peut être explosif, en effet. Mais quand c'est explosif, c'est quand même qu'on a laissé faire beaucoup de choses avant.
Vous voulez dire on a pris sur soi,
on a encaissé,
on s'est retenu longtemps,
on n'a pas été capable de dire avant ça ne me convient pas. Il faut vraiment en avoir encaissé beaucoup pour que subitement ça sorte avec cette rage là.
Daniel.
Donc là, dès qu'il y a des sentiments d'insatisfaction, dès qu'on n'est pas content intérieurement, la capacité de pouvoir être en lien avec cette part mécontente de soi-même et la ressentir et en comprendre les origines, c'est quelque chose qui va moduler cette colère. Si on refoule ça immédiatement, ben on se retient, c'est les personnages sanguins qui disent je me suis retenu jusqu'au jour où ils n'en peuvent plus et ils pètent les plombs, comme ils disent. Voilà, c'est l'expression. Et donc là, à ce moment-là, la colère est perçue comme quelque chose de dangereux, de négatif. Et en général, ça, c'est d'autant plus important que, dès la petite enfance, chaque expression coléreuse d'un petit enfant, car j'insiste sur cela, les petits-enfants, dès le plus jeune âge, ont le droit d'être en colère de temps en temps. Ils ont le droit. Et quand, effectivement, d'emblée, on qualifie cette colère de l'enfant, mais pourquoi t'es en colère? Mais c'est pas bien. Mais t'es pas gentil. Mais ceci, mais cela. Évidemment, on ferme la porte de la capacité du petit enfant à être en lien avec l'origine de sa colère.
Voilà un discours qui doit résonner chez Laura, qui est en ligne actuellement. Bonjour Laura, bienvenue sur RTL, Laura.
Bonjour Flavie, merci.
Merci à vous de votre confiance. Vous habitez en Bretagne, Laura. Et alors, quand vous écoutez Daniel Marcelli nous expliquer ses enfants qui sont brimés quelque part, au niveau de leur colère, que l'on n'autorise pas à vivre leurs émotions, c'est quelque chose que vous connaissez très bien, puisque dans votre schéma familial, vous nous dites que la colère est synonyme de caprice.
Oui, mais je pense que c'est pas seulement dans mon schéma familial, je pense que c'est dans beaucoup de familles comme ça, en tout cas de la génération des parents qui aujourd'hui ont entre 60 et 70 ans à peu près, où la colère était vraiment considérée comme un caprice. Et je pense, moi, j'ai des souvenirs en tout cas d'enfance où j'ai pu avoir des coups de colère très forts, hein, et qui n'ont pas été écoutés. En tout cas, on n'a pas cherché à comprendre pourquoi cette colère-là s'exprimait de cette manière-là.
Aujourd'hui, comment ça se passe pour vous, Laura ?
Ça va.
Non, mais est-ce que vous êtes une jeune femme colérique ?
Alors, je ne dirais pas que je suis colérique, mais c'est vrai que ça m'arrive d'avoir des coups de colère.
Oui.
Parce que les gens ne me connaissent pas comme quelqu'un de colérique. Hein.
Oui.
Les gens me connaissent comme quelqu'un d'hyper joyeux.
Donc ça, c'est la révélation.
Voilà. Mais c'est vrai que j'ai des coups de colère qui peuvent être impressionnants. Hein. Enfin, impressionnants. Si je pouvais briser tout ce que j'ai autour de moi, je le ferais. Quoi. Alors là, ça va mieux quand même. Hein. J'ai des coups de colère qui sont beaucoup moins... Je peux en avoir, mais qui sont beaucoup moins intenses. Mais il y a encore un an, c'était...
Oui, ce qui est intéressant, c'est que vous dites quand ces coups de colère surgissent, vous avez une envie de destruction autour de vous.
Oui, c'est ce que j'allais dire.
La colère réveille en vous cette espèce d'envie de tout casser autour de vous. Et c'est comme si, effectivement, ça se transformait dans cet état de rage interne qui, effectivement, que vous craignez d'en être débordé.
Laura, est-ce que vous avez trouvé l'origine de ces coups de sang, de ces coups de colère ?
Alors oui. En tout cas, oui. Par contre, ça, je ne souhaite pas en parler. Mais
d'accord.
Oui,
mais vous avez identifié.
Oui, voilà.
D'accord.
Ça.
Okay.
Alors, c'est compliqué, hein, mais parce que ce n'est pas parce qu'on a trouvé la raison que le problème se règle, en fait.
Ah, tout à fait, c'est le problème, absolument.
C'est le long travail
entre la compréhension intellectuelle et la compréhension émotionnelle. C'est deux registres qui ne sont pas toujours identiques et parallèles.
Voilà, tout le travail commence à partir du moment, effectivement, où on a identifié ce qui est déjà un premier pas.
Absolument. Et il faut pouvoir, après, les revivre, ces coups de colère, et petit à petit les moduler, les accepter en soi et accepter cette émotion supposée négative et qui va se transformer progressivement. Parce que quand on a un dialogue interne avec soi-même, eh bien les choses s'atténuent et se modulent de manière plus facile.
Laurence Lemoine, comment voyez-vous le fait que Laura ait besoin de tout casser autour d'elle ? Déjà, ça vous soulage ou pas, Laura ?
Non.
Bah non, c'est ça. Est-ce que ça a vraiment des effets positifs de tout péter autour de soi ?
Non, mais ça part sans doute d'une. Je vous connais pas, Laura. Pardon, j'interprète. Hein, mais ça part sans doute d'une forme de désespoir. Je pense que vous avez eu vraiment beaucoup de mal à vous faire entendre quand vous étiez petite et qu'il n'y avait pas d'autre issue au bout du compte que de casser.
Alors, mais parfois, certains ont besoin d'envoyer valser les bols, donner des coups de poing dans les portes.
C'est vraiment le désespoir qu'on ne sera pas entendu. Il n'y a pas d'autre issue finalement que tout casser parce qu'on pense qu'on ne pourra pas se faire entendre.
Mais ça ne soulage pas pour autant.
Cette colère en forme de rage, elle a vraiment deux conditions particulières. C'est le sentiment d'être seul, la solitude.
Oui.
Et la solitude, pas seulement physique, mais la solitude psychologique. Le sentiment que l'autre, non seulement ne vous comprend pas, mais n'a pas envie de vous comprendre. Ne fait pas d'effort pour vous comprendre. Mmh. C'est-à-dire le sentiment d'être rejeté. Et le deuxième, c'est effectivement le sentiment d'impuissance. L'impuissance et le sentiment d'incompréhension, c'est deux éléments qui... transforme justement la colère contre un objet en crise de rage intérieure. Mmh. Avec cette dimension particulière de la rage, c'est l'envie de tout casser et de tout détruire.
Et c'est là qu'on revient à ce que vous disiez, Flavie, tout à l'heure, vous m'interrogiez sur la colère collective, et je pense que c'est ce qui fait la différence, en effet, entre ceux qui vont être capables de militer, de transformer leur colère de manière constructive, et ceux qui vont venir juste pour tout casser.
Laura, vous cassez pas tout dans la maison. Vous restez à notre écoute. Et je vous remercie parce que je suis persuadée qu'on est nombreux à se retrouver effectivement dans votre témoignage.
Ouais, je vous remercie également de m'avoir écouté, c'est très gentil.
Et je me permets de vous embrasser. Restez à notre écoute, Laura.
Et
on se dit au revoir à 16h. Et bonne colère. Salut Laura, à bientôt.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Nadine, moi je suis en colère facilement, surtout lorsque je m'aperçois du laxisme des gens et de l'injustice qui nous entoure. Pourtant, j'essaie de faire la part des choses, mais ce n'est pas évident. Merci pour tous les messages que vous nous laissez aujourd'hui à propos de la colère. Quand je disais que c'était un sentiment qui colonise notre esprit et notre corps, on le voit aussi avec le message de Steven. Colérique 24 heures sur 24, un rien me fait sortir de mes gonds. Par moments, je me rends compte que j'avais tort de m'énerver, mais le naturel revient au galop. Et plus je vieillis, plus je gueule. C'est peut-être la vieillesse qui veut ça. Avant qu'on revienne sur l'origine de nos colères, il y a des phases en fait dans l'existence, Daniel Marcelli. Vous, pardonnez-moi, mais là, vous allez bientôt rentrer dans la phase où vous allez redevenir un bon gueulard. Quoi.
Délicate.
Il paraît que quand on vieillit un petit peu.
Orage aux vieillesses ennemies.
Exactement.
Donc quand on perd de pouvoir, quand on vieillit, on s'approche d'une forme d'impuissance. Et effectivement, le sentiment de perdre, je dirais, une part d'action sur le monde. Et les personnes âgées ont souvent des crises de colère et de rage.
Oui.
La caricature en est les gens qui commencent à engager d'un Alzheimer et ont souvent un mélange d'angoisse et de crises de rage parce qu'elles sont confrontées à l'impuissance.
Est-ce que ces maladies, type la maladie d'Alzheimer, réveillent justement des colères enfouies qui, tout à coup, ont libre cours malgré la maladie ou grâce à la maladie?
Disons que ces pathologies entraînent une désinhibition.
C'est ça.
Et que ce que d'habitude on essaye de contrôler chez les personnes d'un âge en début de démence ne le contrôle plus. Alors c'est un bon exemple parce que ces colères surviennent typiquement pour, par exemple, sont devant une porte, n'arrivent plus à l'ouvrir et ils vont avoir une crise de rage. Ou on veut les ramener dans leur chambre, ils vont avoir une crise de rage. Et il suffit de détourner leur attention sur quelque chose qu'elles aiment bien, d'aller regarder une fleur, d'aller regarder un parterre, etc. Et les personnes se laissent conduire et la rage disparaît. Donc ça montre comment la crise de rage et de colère doit être détournée et donc la manière dont on doit lui trouver un objectif positif. Ça, c'est le premier âge. Le grand âge. Après, à l'opposé, il y a les nourrissons, les petits. On en a parlé. Un exemple type que vous avez probablement vécu dans la vie, un petit enfant de 18 mois, 14, 16 mois commence à marcher et le parent, parce qu'il est pressé, veut le remettre dans la poussette. Et là, à ce moment-là, le petit se raidit, ou la petite, et il veut continuer à marcher, et il veut pas qu'on le ramène à son statut de bébé d'avant. Hein. C'est un peu comme si vous, on vous supprimait votre voiture ou votre mobilette.
Ah non, mais on m'enlève jamais ma poussette. Hein.
Voilà. sans raison. Eh bien, vous voyez, les enfants qui se raidissent et qui ont des crises de colère, voire des crises de rage, parce qu'on les ramène à leur impuissance de jadis. Et l'autre, le troisième âge particulier, c'est l'adolescence. Mm. L'adolescence pour deux raisons. Parce qu'effectivement, il a envie de s'exprimer, d'exprimer ce qui est bon, d'être reconnu des autres, et qu'effectivement la société n'est pas toujours, je dirais, disposée à le reconnaître comme on reconnaissait quand il était un petit enfant. D'un seul coup, il faut qu'il fasse avec les autres.
Et derrière tout ça, l'idée clanique aussi, les clans des adolescents qui ont la haine, qui ont la rage,
j'ai la rage contre le monde
qui les entoure.
Voilà. Et parce que là aussi, c'est quelque chose d'essentiel, j'ai évoqué tout à l'heure les conditions de l'éducation différentes, et aujourd'hui, l'objet de l'éducation, c'est de faire des êtres humains, des individus. Des individus qui sont, je dirais, qui dirigent leur vie eux-mêmes et qui veulent, je dirais, avoir l'entièreté de leur vie. Ce ne sont plus des êtres humains qui ont dit « tiens-toi là, mets-toi là, bouge pas, baisse la tête et tais-toi ». Donc l'individu, il réclame quoi à l'individu? C'est ce que vous évoquiez dans le problème de notre situation et de notre nation. C'est il réclame la reconnaissance, l'attention et la considération. Un adolescent, il a besoin d'attention, de considération et de reconnaissance presque autant que d'oxygène à respirer. Et quand il n'obtient pas ça, eh bien, qu'est-ce qu'il a? Il a cette espèce de forme de colère et de rage qui oscille entre l'envie de détruire ou l'envie de créer.
Voilà. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant. Laurence Lemoine, on va revenir sur l'origine de nos colères, parce que parfois on est un petit peu perdu, on est en colère toute son existence et puis on ne sait pas trop pourquoi. Donc c'est intéressant de rebrousser chemin peut-être et d'aller à la recherche de l'origine de nos colères. Et puis on va écouter le docteur Frédéric Salman qui va nous expliquer les effets d'une colère contenue sur la santé, car certains nous laissent des messages en disant voilà, ça fait le lit des cancers. Et bien justement, il nous donnera son point de vue sur la question. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Jean-Xavier qui nous tweet « Mais quel bougon !» Une des phrases que j'entends le plus, bougonner, râler, faire la tête, se mettre en colère. Il y a des degrés quand même dans la colère, Laurence Lemoine.
Il y a des degrés dans la colère.
Il y a l'insatisfaction, il y a la petite colère, il y a la grosse colère, et il y a celle où il y a la colère ruminée.
Oui, mais je dirais que ces degrés, ils sont fonction de ce qu'on a appris à faire de nos colères quand on était petit, selon qu'on nous a toujours obligés à la réprimer, parce que dans la famille, ça se fait pas. Il y a des familles où la colère est dangereuse, hein, on brise la belle image de l'entente familiale. Il y a des familles où la colère est très sévèrement sanctionnée, on s'en prend une. Et puis d'autres familles où la colère peut être même très érotisée, on adore se gueuler dessus. Ça existe, ça aussi. Hein.
Donc,
il y a des gens qui peuvent adorer toujours être en colère parce que ça a été très érotisé dans leur vie, la colère.
Oui, sauf qu'ils ne savent pas s'aimer autrement qu'entre s'engueulant, ce qui est ennuyeux. Voilà. Et les gens pour qui hors l'amour, il n'y a point de salut, sont dans cette espèce de guimauve amoureuse permanente et ne s'autorisent pas des mouvements et des émotions coléreuses. Plus on est proche et plus on partage longtemps des vies avec quelqu'un, plus on peut être dans la complexité des sentiments. Ouais. On peut, voilà, et ça, c'est essentiel.
Ruminer, vous l'avez dit il y a un instant, docteur Marcelli, on va tout de suite accueillir, si vous le voulez bien, le docteur Frédéric Salman. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, docteur Salman?
Je suis très en colère, j'ai attendu 2 minutes.
Bah oui, je sais bien, je m'y attendais, mais je vous ai fait monter. Merci de nous accorder quelques instants de votre précieux temps, docteur Salman. On parle de la colère aujourd'hui. Il y a la colère, vous savez, qui sort et qui, à un moment donné, nous met dans des états d'émoi incroyables, où on a le palpitant, la transpiration, les yeux comme ça, les cheveux qui se dressent et tout ça, c'est une chose. Et puis il y a la colère qui est ruminée, vous savez, celle qui, à un moment donné, vient nous torturer. Mais est-ce qu'elle nous torture aussi la pensée, le corps, justement, et pas que la pensée?
Alors, par rapport à la colère et la santé, ça y est, on sait où on en est grâce à 2 grosses études qui ont eu lieu aux États-Unis et en Allemagne. La première a montré que dans les 2 heures qui suivent un accès de colère important, le risque d'infarctus du myocarde est multiplié par 5.
Mamazette.
Et le risque de rupture d'anévrisme cérébral par 6. C'est l'accident vasculaire cérébral.
Moi, dites donc, je ne savais pas que vous alliez nous réserver cette information. Ça, c'est pour les gros coups de gueule, docteur Salman?
Ah oui, alors après une colère, alors, on sait pourquoi. Parce qu'une sécrétion de cortisol, c'est l'hormone du stress, qui provoque une sécrétion d'une autre hormone qu'on appelle l'endothéline, qui fait que toutes les artères, d'un seul coup, se rétrécissent.
Oui, c'est ça.
Elles se contractent.
Oui.
Et c'est pour ça que le risque d'infarctus monte en flèche comme d'accident vasculaire cérébral. Maintenant, on le sait. Donc, on va dire, mais il ne faut pas du tout se mettre en colère, du coup, parce qu'on risque de ne pas aller bien du tout. Mmh. Surtout qu'il y a d'autres effets secondaires qui peuvent être au niveau digestif. Il y a des gens qui ont des problèmes de diarrhée, de gastrite, des troubles d'urine, des problèmes d'eczéma, enfin, tout est possible. Par contre, il y a une autre étude allemande qui a été faite sur 6000 personnes et elle montre que si de temps en temps on pique une colère, on gagne 2 ans d'espérance de vie en plus.
Bon, alors attends.
C'est là où c'est compliqué l'histoire.
Ça veut dire qu'il faut bien réserver ses colères, les bonnes colères, hein, les colères saines qui vont être plutôt bonnes pour la santé. C'est un peu comme le café, quoi, en fait. Hein. Il faut le prendre avec, avec modération. Docteur Marcelli.
La colère participe de la plasticité vasculaire en permettant aux artères de se contracter puis de dilater. Ça fait partie d'une certaine forme de santé que de pouvoir avoir des artères qui se dilatent quand on est heureux et qui se contractent de temps en temps quand on est en colère. C'est ce qu'est en train de nous dire
le docteur Salman.
Mais de trop est l'ennemi du mieux.
Oui.
C'est-à-dire que si les gens piquent des colères tout le temps et râlent tout le temps, il y a l'effet inverse qui se produit. Donc en fait, quand on se met en colère, on râle. Il faut savoir pourquoi on râle, vis-à-vis de qui on râle. Ouais. Il faut que ce soit construit parce qu'on n'a pas énormément de cartouches. On ne peut pas être en colère tous les jours.
Autre chose, on a reçu un message sur Facebook de Claire qui dit « La colère est responsable du cancer ». Est-ce qu'on peut aller jusque-là?
Alors, ça a été étudié et on n'a trouvé jusqu'à ce jour aucun lien entre colère et cancer.
D'accord.
Très bien. Il faut être très prudent.
Docteur Marcel, oui,
c'est une espèce de...
Il y a des croyances. Il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas bien, je suis en colère, je suis énervé, rien ne va plus, je suis en train de soigner mon cancer ou d'entretenir mon cancer. On l'entend, ça, parfois. Donc ça, c'est une croyance, c'est une idée reçue.
On a tout recherché, on a regardé pour le cœur. Là, on a vu un vrai lien robuste, qui montre qu'effectivement, il y a des risques, entre guillemets, de crise cardiaque dans les 2 heures qui suivent une colère. Pour le cancer, on a étudié de la même façon avec minutie et on n'a pas trouvé de lien.
Voilà.
On a un message également de Guillaume qui nous explique qu'après des tests, des examens, des recherches, on a découvert que je faisais de l'apnée du sommeil et que donc je ne dormais quasiment pas. Sommeil non réparateur. Depuis que je suis appareillée et en attente d'une chirurgie, mon sommeil est donc redevenu normal et bizarrement, depuis, je suis plus zen, je suis plus réceptive, je suis moins impulsif et du tout colérique. La colère ne vient pas toujours d'un sentiment, elle peut aussi venir d'un problème de santé. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus?
Quand quelqu'un est exténué au niveau de sa santé, parce qu'il ne dort pas, il s'énerve beaucoup plus facilement. Mmh. Donc en fait, ce n'est pas des facteurs extérieurs, c'est simplement le manque de sommeil ou d'autres sujets, parce qu'ils sont en hypoglycémie, ils ont très faim, ils deviennent coléreux. Donc parfois, le bon médicament, c'est tout simplement de dormir ou de prendre un repas.
Ou une bonne hygiène de vie, en fait. Mmh, une bonne hygiène de vie peut nous protéger de certains coups de colère.
Bien sûr, par exemple, les gens qui font de l'exercice physique tous les jours sont beaucoup moins sujets aux colères.
C'est vrai, c'est vrai. Daniel Marcelli ?
Oui, en n'oubliant pas effectivement qu'une colère de temps en temps, c'est une bonne chose, comme on vient de nous le dire, et que la colère, le problème de la colère, c'est quand la pression monte trop et que le sujet n'arrive pas à évacuer cette pression. Je compare souvent la colère à la cocotte minute. Mmh. Et quand la cocotte minute, ça chauffe, il y a un moment où il faut évacuer la vapeur. Si la vapeur n'est pas évacuée, ça explose. Eh bien, je dirais que les mots et la capacité de se parler à soi-même, c'est la manière d'évacuer la vapeur liée à la colère. Mais la colère en tant que telle, par cette espèce d'émotionnalité, ça fait partie d'une émotion de base. Et la palette des émotions, c'est essentiel qu'un être humain puisse vivre la palette des émotions. Sinon, il risque d'être dans une ligne de base toujours identique. Et la moindre émotion risque au contraire d'être catastrophique. Alors, il y a des gens qui vont mal avec des bonnes émotions. Une bonne émotion peut entraîner aussi une sorte de faiblesse, enfin d'accident.
Docteur Salman, je viens consulter à mon prochain coup de gueule, d'accord ?
Absolument.
Moi, je vous embrasse et je conseille votre ouvrage. Prenez votre santé en main chez Albin Michel. À bientôt, docteur Salman.
Merci, à bientôt. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Nous avons reçu un tweet et nous allons justement vous permettre à vous de sortir votre colère. Silvio Lorenzi, si je retrouve votre mail, bon c'est pas grave, votre tweet que vous nous avez envoyé et que je devais lire il y a un instant, mais c'est pas grave. Alors donc, revenir sur l'origine de nos colères. Si on n'arrive pas forcément à l'identifier, Laurence Lemoine, est-ce que ça n'est pas quand même à un moment donné le début d'un travail ?
Oui, mais oui, parce qu'il y a plusieurs choses dans le travail de transformation de la colère. Il y a d'abord de comprendre que la colère c'est pas mal, ça peut être un allié, et donc essayer d'entendre ce qu'elle veut nous dire, d'essayer de se rappeler comment nos colères ont été accueillies dans notre éducation, et puis surtout essayer de trouver le moyen de dire ce qu'on a besoin de dire à ce moment-là, et qui est en général de l'ordre de « je me sens incompris, on fait pas attention à moi, on me piétine, j'ai quelque chose à dire ». Donc il y a tout un travail d'élucidation qui peut nécessiter un accompagnement, c'est toujours bon.
Oui.
Un travail de verbalisation, mais pas que.
Donc ça y est, on a retrouvé le tweet, vous allez pouvoir rebondir dessus, Daniel Marcelli, de Sylvain Lorenzini. Hello Flavie, moi je n'arrive pas à exprimer ma colère, tout reste bloqué. Du coup, quand je suis en colère, je me renferme. C'est un cercle vicieux finalement, parce qu'on se contraint à une solitude.
Bien sûr, c'est renfermer ça, c'est augmenter sa solitude, augmenter son sentiment d'incompréhension, c'est avoir ce sentiment de frustration permanente. Et le grand risque, en particulier chez les adolescents, c'est qu'à ce moment-là, il y a cette espèce de colère qui se transforme en rage intérieure et qui après peut trouver comme issue par exemple la destruction. Parce que ce que disait Laurence tout à l'heure, c'est effectivement cette colère, elle est là, et en fonction de la manière dont elle est reçue ou reconnue par l'autre, elle va avoir un destin différent. Si elle est acceptée, si elle est reconnue, eh bien la colère peut se transformer, voire même se transformer en quelque chose de créatif. La plupart des grands artistes ont souvent traversé des périodes
de colère.
Vous voulez dire quelque chose, des périodes de colère, des périodes de revendication d'être connu, enfin, oui. Créativité.
Jules qui nous a laissé un message. Moi, lorsque je suis en colère, eh bien, je pose mes mots sur de la musique, je chante, j'écris et cela me fait du bien. Voilà. Ça, c'est une façon de faire quelque chose de sa colère, Laurence Lemoine.
Ah oui, moi j'aurais bien aimé qu'on m'apprenne ça.
Voilà. Oui. La créativité.
Est... Moi, je sais que c'est l'écriture qui me sauve à chaque fois.
Si vous regardez bien avec tous ces jeunes qui vont mal, ces jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, etc., que font les éducateurs?
Des tags.
Ils essayent de leur trouver des chemins de créativité, alors des expressions où ils vont pouvoir être reconnus. Pour les plus doués, évidemment, ça sera quelque chose de créatif, être reconnu par les autres. autres. Mais ceux qui sont moins doués, ils peuvent faire un beau mur, ils peuvent faire une belle fenêtre.
Mais c'est l'origine du street art. Hein.
Voilà, voilà. Et donc, la colère peut se transformer. Si, en revanche, le jeune ou la personne n'arrive pas à exprimer sa colère, ce besoin d'exploser, ce besoin de tout casser peut se transformer là en génie de la destruction. Et on peut toujours être génial et reconnu dans la destruction. Le prototype de ça a été le pilote allemand qui a dirigé son appareil avec je ne sais plus combien, 150 ou 200 personnes qui sont décédées, comme si c'était le seul acte pour être reconnu des autres. Mm. On peut imaginer que ce monsieur vivait avec cette espèce d'état de rage depuis pas mal de temps.
Laurence Lemoine ?
Oui, je pensais aussi que maintenant, dans la psychologie positive, on encourage beaucoup les parents à acheter des punching balls pour leurs enfants. Mmh. Et en même temps, moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que quel est le but, finalement ? Le but du punching ball, c'est de dériver la violence que l'enfant pourrait être tenté d'avoir contre ses jouets, contre ses parents, etc. Mais au bout du compte, la colère, elle sert à quoi ? Il y a aussi à aider l'enfant à comprendre pourquoi il est en colère et comment il peut dire, comment il peut s'affirmer, comment il peut négocier la relation pour avoir le sentiment d'être entendu et faire quelque chose de ce qu'il a à dire.
Donc ça, c'est dans l'éducation que tout se joue.
Oui, les deux ne sont pas complètement incompatibles entre le punching ball et l'explication.
On parle et après tu vas cogner.
Pas que le dérivatif, c'est
absolument.
Ça que je voulais dire.
Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de mécanique. Voilà, hein, voilà, t'es en colère, ben prends tes gants et va boxer. Voilà, et là, on a
c'est une espèce... Non, on discute et après on cogne.
C'est la même chose quand un enfant... Voilà, quand un enfant est tout seul, on lui met son nanin, son doudou, son objet transitionnel et débrouille-toi. Et bien, ça devient mécanique et ça se transforme en son contraire. Mais si je comprends que tu es en colère, tu as de l'émotion, tu as de l'attention, tu as besoin de l'exprimer, alors vas-y, tu vas. Et en même temps, on va essayer de voir avec toi d'où vient cette colère, qu'est-ce que tu veux nous dire, est-ce qu'elle est légitime, pas légitime, est-ce que je l'approuve, est-ce que je l'approuve pas, parce que l'autre n'est pas dans l'obligation constante d'approuver tous des états émotionnels.
Absolument.
Et on a le... Mais en revanche, ce qui est important, c'est que ces états émotionnels puissent être exprimés et être reconnus par l'autre. Et je crois que c'est très important de le dire, la reconnaissance ne vaut pas nécessairement approbation.
Alors, on va y revenir dans un instant, justement, avec vous. Il y a Lou et Tula qui nous a laissé un message sur Facebook. La colère, moi, je ne connais pas. Je suis souvent déçue, choquée, contrariée, fâchée, parfois, mais je n'explose jamais. Je me dis que c'est une perte d'énergie, alors je règle mes problèmes par la parole, le dialogue, et j'y ai sacrément gagné en sérénité. On va se retrouver dans un instant avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Merci pour votre fidélité et vos réactions sur Facebook, sur Twitter et sur RTL.fr. Olivia qui nous a laissé un message sur lequel nous allons rebondir. J'ai du mal à entendre que la colère est saine. Le père de ma fille a une colère excessive. J'ai longtemps essayé de comprendre, mais la violence, je ne peux l'excuser. Laurence Lemoine.
Oui, je trouve que c'est très bien de faire la distinction entre colère et violence. Parce que l'une des raisons pour lesquelles on ne sait pas quoi faire de nos colères, c'est que souvent elles sont accompagnées de violence.
Oui.
Et or, si la colère surgit, c'est qu'on a un désaccord à exprimer. Et on ne sait pas entrer en conflit, parce que souvent le conflit est accompagné de violence. Donc je trouve que c'est une distinction importante, conflit-violence, colère-violence. La colère, encore une fois, elle procède du sentiment qu'on n'est pas entendu, pas compris, donc il faut pouvoir rentrer en conflit, mais il faut pouvoir le faire sans violence.
En fait, ce que vous nous racontez aussi, Daniel Marcellier, notamment dans votre ouvrage chez Albin Michel, « Avoir la rage du besoin de créer à l'envie de détruire », ce que vous nous racontez pour le petit enfant qui souffre de solitude, qui n'est pas compris, qui peut souffrir d'impuissance, ça s'applique à tous les pans de notre existence à l'âge adulte, au boulot, dans les relations amoureuses, dans les relations de famille.
Absolument. À plusieurs reprises, l'être humain va être confronté à ce sentiment de solitude, de ne pas être compris, et plus encore d'être en face de gens qui refusent de le comprendre, ce sentiment d'impuissance.
On l'a dans le couple, on l'a...
Voilà. Et en plus, dans notre société, où il faut tout le temps dire « je gère, je gère, je gère », ben, y a des moments où on n'y arrive plus, et à ce moment-là, entre guillemets, j'ai pété les plombs. Donc, effectivement, la différence entre la colère et la violence, la crise comme ça explosive, elle est très importante. Et le soin de la colère, ce qui la soigne, c'est l'empathie, c'est-à-dire la reconnaissance par l'autre. Il y a plusieurs fois été question de cette dimension de reconnaissance ou de non-reconnaissance. La reconnaissance par l'autre de cet état affectif. Oui, je comprends, tu es en colère, je recomprends, vous êtes en colère. Et ce qui est important de dire à tout le monde, c'est que c'est pas parce qu'on comprend quelque chose, un, qu'on l'approuve, et deux, qu'on dit aux autres, bah, vas-y, casse tout, t'as raison, vas-y, pousse-toi, fais une crise de violence. Déjà, le fait de s'entendre dire « je comprends ta colère, peut-être que tu as de bonnes raisons d'être en colère », très étonnamment, La colère déjà diminue de moitié chez celui qui la ressent. Mmh. Et là, on peut engager un dialogue et engager une reconnaissance. Dis-moi ce qui s'est passé, pourquoi, qu'est-ce qui t'a pas apprécié, etc. Et là, on est dans le terrain des mots et dans le terrain de l'échange, et plus dans le terrain du passage à l'acte.
Voilà, donc on n'est pas obligé de s'écraser devant une colère.
Quand une colère commence à se manifester, plus la personne s'écrase, plus elle a peur, plus l'autre va avoir cette crise de rage, parce qu'en même temps, il voit devant lui quelqu'un qui a peur de lui aussi. Quand on est en face de quelqu'un qui a peur de vous, on n'est pas bien. On a l'impression d'être méchant, d'être dangereux, et ça accentue ce sentiment de voilà. Donc ça, c'est l'élément essentiel.
Olivier qui nous écrit: non, la colère ne fait pas de bien. On se sent mal dans sa peau quand on est quand une personne est en colère. Je ne suis pas à l'aise. Je suis contrariée. Jeune, j'étais sensible et je pleurais quand on se mettait en colère. Et puis Christelle qui nous parle de son épouse Céline qui s'est mise en colère 4 fois en 13 ans. J'ai été responsable d'une de ses colères une fois et je ne pense pas que je la provoquerai de nouveau. J'ai trop peur. Ça, c'est pour vous, Céline. C'est marrant, c'est chez les personnes les plus calmes qu'il y a les colères les plus impressionnantes.
Ça va, c'est précisément... La colère, ça existe chez tout être humain. Ça fait partie de la palette des émotions. Donc quelqu'un qui n'a jamais éprouvé de colère, c'est quand même que quelque part, il verrouille quelque chose de ses sentiments.
Donc ça veut dire aussi qu'un enfant muselé peut exprimer à l'âge adulte des colères d'une façon peut-être totalement désordonnée, Laurence Lemoine ?
Ah bah oui, parce qu'on lui a pas appris quoi en faire. Le truc, c'est qu'il faut pouvoir vivre avec le désaccord. C'est-à-dire qu'il a pas eu le droit d'être en désaccord avec ses parents, il a pas eu le droit de l'exprimer. Le seul moyen, c'était de se mettre en colère parce qu'il n'était pas entendu. Et puis, soit on réprime, soit on casse tout au bout d'un moment.
Même être en désaccord avec soi-même. Par exemple, un petit frère ou une petite sœur arrive.
Oui.
Ce petit frère et ce petite sœur, quand on a 4 ou 5 ans, l'enfant de 4 ou 5 ans, il a à la fois le droit d'aimer ce petit frère ou cette petite sœur, et en même temps le droit d'être en colère et de trouver qu'il prend sa place. Il a le droit d'avoir les deux sentiments. Mmh. Et donc, si effectivement on invalide un sentiment totalement, d'abord il va se sentir coupable et il va le refréner. Alors, notre société, avec le mythe de Caïn et Abel, a organisé ça autour de la rivalité fraternelle. Et parfois, les parents, un peu inquiets, souvent parce qu'il y a des histoires de jalousie dans la famille, faut pas être jaloux, c'est pas bien, tu vas lui faire mal. Alors que si simplement on dit à l'enfant: oh ben je comprends, ce petit frère de temps en temps ou cette petite sœur, elle te casse les pieds, t'as le droit d'être en colère, hein, bon ben prends un dessin, puis fais un dessin, puis griffonne-le. Et puis donc de donner des issues à cette colère et de considérer que cette émotion-là, elle est normale. Et en même temps, il aime son petit frère. C'est ça l'être humain, c'est la complexité des sentiments et parfois l'ambivalence à l'égard d'une même personne. Ce qui me paraît important, c'est de reconnaître la différence, de reconnaître l'autre et d'avoir de l'empathie pour la différence de l'autre. Encore une fois, avoir cette empathie pour la différence, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout de l'autre. Mmh. Ça veut dire qu'on a le droit de... Mmh. Mais d'avoir un peu de capacité de reconnaître que l'autre existe dans la différence. Et non pas vouloir absolument qu'il soit comme nous. Alors évidemment, quand on est dans le terrain de certains terroristes, il n'est pas question d'avoir de l'empathie pour cela.
Non, quand je dis que ce qui nous sauvait, c'est l'empathie les uns les autres. Cette réunification aujourd'hui autour...
Mais là, je dirais que c'est plus un mouvement de foule. C'est plus un mouvement de foule que de la reconnaissance de l'émotion et de, voilà.
On se retrouve dans un instant si vous le voulez bien sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Voilà, on développera une autre fois effectivement ces derniers points qu'on a essayé d'aborder, mais trop rapidement avec vous sur cette antenne. Laurence Lemoine, je vous remercie pour votre éclairage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle Psychologie Magazine qui est actuellement en kiosque. Daniel Marcelli, donc votre ouvrage c'est Avoir la rage du besoin de créer à l'envie de détruire. On le retrouve chez Albin Michel. C'est très éclairant justement sur les schémas de colère que l'on peut rencontrer chez les enfants, les adolescents. Et c'est une façon de se connaître soi-même aussi. C'est marrant parce qu'on regarde dans le rétroviseur, on se dit: ah oui, tiens, effectivement, c'était comme ça chez moi.
Merci Flavie, chaque fois que je viens chez vous, je ressors apaisé.
Eh bien écoutez, vous m'envoyez ravie, figurez-vous que ça nous fait ce même effet à nous aussi. Demain, on se retrouve sur l'antenne dès 15h avec vous, bien sûr, sur RTL. Nous allons parler des fautes d'orthographe, les fautes d'orthographe qui sont toujours mal perçues et qui stigmatisent ceux qui les commettent. Alors quelles sont les erreurs les plus courantes et la simplification de l'orthographe va-t-elle tout changer? Ça c'est pour effectivement tous ceux qui rentrent à l'école là, et la rentrée c'est demain justement, une rentrée que l'on souhaite bonne à tous les enfants qui nous écoutent, mais aux parents également, parce que demain c'est reparti pour un tour. Donc bon courage à vous. On se retrouve donc dès 15h sur RTL. D'ici là, prenez soin de vous, soyez peace and love, ne vous mettez pas en colère, préférez donc vous faire des bisous. Merci. Merci Philippe, Catherine. On vous fait des bisous, on vous dit à demain 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier des Grosses Têtes.
Vous écoutez RTL.